Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Welcome to the Ritz.
4 lettres et une adresse. 15 Place Vendôme, symbole du luxe à la française. Voilà pour le côté face de l'hôtel Ritz.
RTL.
Putting on the Ritz.
Coco Chanel, mademoiselle qui vit au Ritz, donne ses dernières recommandations à sa plus proche collaboratrice.
Putting on the Ritz.
Welcome to the Ritz.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On le surnommait le roi des hôteliers et l'hôtelier des rois, César Ritz, a donné son nom à l'un des plus grands palaces parisiens. On vous raconte l'histoire de César Ritz, ce génie venu de Suisse avec la romancière Pauline Gaillat-Laburte.
Qui possède le Ritz aujourd'hui ?
Alors c'est Mohamed El Fayed qui l'a acheté en 1978. Et avant ça, ça appartenait à la famille Ritz depuis la création en 1898.
Alors celui qui avait donné son nom à ce palace, justement, c'est César Ritz. Il est né en février 1850 en Suisse. C'est un montagnard ?
Oui, complètement. Il est né dans un tout petit village qui s'appelle Niederwald, c'est dans le Valais. Et au dernier recensement, il y a 45 habitants, donc c'est vraiment un petit trou.
Il naît dans une famille riche, César Ritz ?
Pas du tout, c'est comme je disais, un tout petit village. Son père est maire du village, mais il ne s'y passe pas grand-chose. C'est le dernier enfant d'une fratrie de 13. Donc ils ne sont pas très riches, ils habitent dans une petite maison en bois. C'est vraiment très loin.
Loin
de
l'hôtel.
Ouais.
Voilà.
C'est une famille quoi, de paysans ?
Oui, c'est une famille de paysans. Oui, ouais. Ils ont des vaches, ils ont des chèvres.
D'accord, donc comme on l'a compris, rien ne le prédestinait à devenir l'hôtelier des rois. Dans votre livre Ritzy, qui est publié chez Albin Michel, vous écrivez qu'il est différent de ses frères et sœurs. Alors c'est la romancière qui écrit ça ou il y avait effectivement un caractère particulier chez César Ritz ?
Bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que la romancière a tiré le personnage vers la différence pour pouvoir en faire un personnage intéressant dans le roman. Mais je pense aussi que sa mère avait beaucoup fondé d'espoir en lui. Elle voulait qu'il soit peintre. Elle s'imaginait que c'était un génie qui allait peindre dans les cours européennes de l'époque. Alors qu'en fait, il ne savait sans doute pas tenir un crayon. Et il a fait des études au collège de Sion qui ont été assez décevantes. C'était un élève assez médiocre, il n'a pas du tout appris à dessiner. Donc à ce stade-là, il n'avait pas vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Donc il était chez les Jésuites, c'est ça ?
Oui, c'est ça, il était dans un collège à Sion.
Alors il déçoit en quelque sorte un peu son père qui voulait qu'il soit chez les curés et un peu sa mère qui espérait qu'il soit peintre. C'est quoi son premier contact à César Ritz avec la restauration, le monde de l'hôtellerie ?
Bah en fait, comme il a eu des études finalement très décevantes, au bout de 3 ans, son père décide de le retirer du collège et il l'envoie à Brigg, qui est aussi un petit village suisse, une petite ville, à l'hôtel Couronne et Poste. Et donc là, il est sommelier, il est chargé de présenter les vins aux clients qui sont là, qui sont des familles assez bourgeoises, qui sont en transhumance vers Saint-Moritz. Et il ne convainc pas vraiment, en fait, parce qu'il est plutôt tir au flanc. Il casse les assiettes, le sommelier en chef est très déçu par son attitude un peu je m'en foutiste.
Que lui dit le directeur de ce premier hôtel où il travaille ?
Alors il lui dit qu'en fait il n'est pas du tout fait pour l'hôtellerie et qu'il ferait mieux d'abandonner tout de suite. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, cette phrase, parce qu'il en reparle après, sa femme en reparle dans les mémoires qu'elle laisse sur lui.
J'adore ça parce qu'il y a plein d'histoires de génie dans un domaine et quand on remonte dans leur enfance, il y a quelqu'un qui leur a dit t'es pas fait pour ça. C'est vrai de grands sportifs, d'un homme comme César Ritz.
Et il va pas abandonner d'ailleurs
même,
César Ritz.
On en avait parlé je sais plus, je crois que c'était Einstein aussi où on lui avait dit qu'il était vraiment pas doué pour les études et qu'il arriverait à rien.
Et très mal coiffé
ça c'est sûr, il tirait la langue en plus. Tellement de génie comme ça qu'on a voulu enterrer.
César Ritz, il ne renonce pas évidemment à sa vocation et en 1867, il vient pour la première fois à Paris avec quel objectif ?
Bah en fait, il a juste avant de venir à Paris, il avait commencé à vraiment s'intéresser un petit peu à la restauration. Il était dans un collège jésuite, encore une fois, mais dans les cuisines. Donc, il a mis un premier pas, on va dire, dans la restauration. Et donc, quand il arrive en 67 à Paris pour l'exposition universelle, il se fait embaucher comme homme à tout faire, en fait, dans un hôtel.
L'hôtel de la fidélité,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, ouais. Voilà. Et donc, il sert à tout. Il cire les chaussures des clients, il porte les bagages, etc.
Est-ce qu'il est plus adroit ? Est-ce qu'il est moins tir au flanc, César Ritz, à cette époque ?
Moins tir au flanc, oui, apparemment, parce que ça lui a un peu mis un coup de pied aux fesses de se faire virer de son premier hôtel. Donc, il a très envie de réussir, mais il n'est pas très adroit de ce qu'il fait pour le moment. Et il y a encore du boulot.
Il continue de casser de la vaisselle. Il y a une rencontre qui sera importante, Pauline Gaillat-Laburte, dans la vie de César Ritz. C'est la rencontre avec Auguste Escoffier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est, Auguste Escoffier ?
Oui, alors on le connaît un petit peu plus que César Ritz. C'est vraiment le père de la cuisine moderne, de la cuisine moderne française et aussi qui a fait rayonner la cuisine française à l'international. Avant lui, c'était beaucoup de plats en sauce, beaucoup de crème, etc. Lui, c'est un peu aussi le fondateur de la diététique, comme on peut la connaître maintenant. Et puis, il nous a laissé des tas de recettes. Les crêpes Suzette, c'est lui. La pêche Melba, c'est lui. Donc, on connaît
que de belles idées.
Ça,
ah ouais. Voilà.
Oh, je pense que j'ai pris un yaourt 0% avec André Facetta pendant notre
Auguste.
Dîner.
Vous ne connaissiez pas encore Auguste
Escoffier.
Non,
j'avais raté
voilà.
Auguste Escoffier.
Vous rattraperez demain.
Et ses desserts. 1870, la guerre franco-prussienne. Qu'est-ce que ça fait ? Ça renvoie César Ritz dans sa Suisse natale. Mais il va heureusement très vite revenir en France et gravir tous les échelons de l'hôtellerie. A tout de suite sur RTL.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité de découvrir un personnage au destin hors du commun. César Ritz, l'homme qui a réinventé les palaces. C'est Pauline Gaillat-Laburde qui nous fait visiter les grands hôtels qu'il a créés. César Ritz, c'était quel type d'homme ? Un perfectionniste ?
Complètement. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens du détail, qui est très attaché aussi à sa propre apparence. Il a 300 costumes dans sa garde-robe, il en change tout le temps. C'est quelqu'un qui est vraiment très tatillon. C'est aussi quelqu'un qui s'attache beaucoup à l'hygiène dans ses hôtels.
Il est maniaque ?
Oui, il est un peu maniaque. En tout cas, moi, j'en ai fait un personnage très maniaque.
Vous avez forcé le trait un tout petit
peu. J'ai complètement forcé le trait, oui.
Et parce que vous publiez un roman Ritzy chez Albin Michel où vous racontez l'histoire du Ritz et de César Ritz.
Tout à fait. Et donc pour tout ce qui concerne l'hygiène, en fait, il a aussi enlevé tout ce qui était les tentures dans les hôtels, tout ce qui était attrape-poussière, en fait.
Mais vraiment exigeant au point d'être peut-être détesté par ses employés, par exemple, est-ce qu'il irritait ?
Je ne sais pas s'il irritait, mais c'est sûr que quand on travaille avec un perfectionniste, parfois c'est dur de suivre le rythme. Donc bon, je pense quand même que c'était un meneur d'hommes et qu'il a su entraîner les gens derrière lui pour accomplir sa vision.
En présentant César Ritz tout à l'heure, je disais que c'était un génie. Un génie, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps. On dit souvent en avance d'une génération. En quoi il a réinventé l'hôtellerie, la grande hôtellerie de luxe, César Ritz ?
Je pense que d'abord, il en avait vraiment fait une expérience. On parlerait aujourd'hui d'entertainment. Pour lui, c'était vraiment ça, en fait. Il a introduit la musique dans les bars de ses restaurants. Il a introduit aussi tout ce qui peut être technologie moderne. Il y a des ascenseurs, l'eau chaude dans les salles de bain privées, dans les hôtels, etc. Des choses qui n'existaient pas du tout avant. En fait, il a fait entrer le confort moderne dans les hôtels. Avant, on était plutôt dans le luxe froid.
C'est lui qui fait entrer les pianos dans les bars d'hôtels ?
Il y a de ça aussi, oui, il embauche des musiciens à chaque fois et c'est aussi le but de faire rester les clients plus longtemps pour qu'ils consomment.
Ouais, passer un bon moment, quoi.
Aussi.
Alors, on l'avait laissé tout à l'heure, César Ritz, contraint de quitter la France à cause de la guerre de 1870. On le retrouve en 1873, on s'imagine, on est à l'exposition universelle de Vienne, en Autriche. Pour qui travaille-t-il là-bas ?
Alors, il travaille pour un restaurant à nouveau qui s'appelle Les Trois Frères Provençaux. Et puis, il travaille aussi en extra au pavillon impérial de l'exposition universelle. Donc, ça lui donne l'occasion de rencontrer pas mal de célébrités, entre guillemets, de l'époque. Il y a Bismarck qui est là, il y a l'empereur Guillaume, il y a le futur roi Édouard VII, qui est encore prince de Galles à l'époque, et avec qui il va vraiment débuter sa relation à ce moment-là et qui le suivra toute sa vie.
Ça veut dire que le prince de Galles, on y reviendra tout à l'heure, mais il sera fidèle à César Ritz.
C'est ça, en fait, il dira là où va Ritz, j'irai aussi, et il lui sera fidèle toute sa vie.
Et on expliquera pourquoi. Il y a un détail très intime, il a été aussi fidèle à César Ritz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui côtoie pour la première fois les grands de ce monde.
Oui, c'est ça. Il y prend goût aussi, je pense. Et du coup, toute sa vision de l'hôtellerie, après, sera aussi à destination de ses clients-là.
Et pourtant, dans ces années 1970, César Ritz n'est pas encore son propre patron. Il n'a pas encore créé les grands hôtels qui feront sa légende. Mais partout où il passe, quand même, il étonne. Exemple, à l'Hôtel National de Lucerne. Que fait-il pour un mariage important ?
Alors, il fait toujours des choses assez incroyables. En l'occurrence, là, il plante un jardin magnifique à l'hôtel pour une soirée, en fait. Il fait repousser la jungle avec des animaux exotiques, etc.
Et c'était le mariage de qui ? On s'en souvient ? Non, ça n'a pas été noté. Je crois qu'aussi, il y a un jeu d'eau particulièrement impressionnant à l'occasion de ce mariage. C'est ça, il éclaire les fontaines de l'hôtel.
Ça lui arrive souvent d'éclairer les fontaines. Il organise aussi ce qu'il appelle des boating parties. Donc sur le lac de Lucerne, il fait voguer des bateaux complètement illuminés de lanternes. Donc c'est aussi très très beau. Il a vraiment le sens du spectacle en fait.
Et de la démesure aussi.
Et de la démesure, oui, c'est jamais mesuré les fêtes qu'il organise. C'est assez incroyable.
Avec une marge d'erreur peut-être aussi.
Rarement.
Des fêtes qui ratent. Ah oui, il est si bon que ça, César.
C'est vraiment un perfectionniste. Il pense presque à tout. Il y a juste une fois où effectivement, en organisant une de ses fameuses boating parties, il espère que la lune va éclairer la scène. Sauf qu'il a oublié qu'en fait, ce soir-là, il n'y avait pas de lune.
Donc, la lune n'obéissait pas à César Ritz.
Personne n'est parfait, c'est rassurant. Ce grand hôtel national de Lucerne, il va même le sauver de la faillite. Dans quelles conditions?
En fait, quand il y arrive, donc il est nommé directeur général de l'hôtel. C'est la première fois qu'il dirige vraiment un hôtel. Et quand il arrive, l'hôtel est dans un état assez catastrophique. Ça a été laissé un petit peu à l'abandon. Il y a des trous dans les draps. Les tapisseries sont en train d'être mangées par les mites. Et donc, lui, il remet ça un peu d'équerre. Et puis, surtout, son avantage à César Ritz, c'est qu'il a réussi à se faire un carnet d'adresses. Il a toujours avec lui un petit cahier qui est son « Who is who ?» et il connaît pas mal de gens. Et donc, il écrit à tout le monde en disant « Venez découvrir le nouvel hôtel que je viens d'ouvrir. » Et c'est comme ça qu'il arrive à sauver cet hôtel de la faillite en faisant venir les têtes couronnées et tout le beau monde découvrir ce nouvel hôtel.
Et puis, quand il a des soucis, c'est aussi un inventif. Vous racontez dans votre livre « Ritzy » qui est publié chez Albin Michel, Pauline Gaillat-Laburde. Dans son aventure, est-ce qu'il accompagne toujours, est-ce qu'il s'accompagne, pardon, toujours d'Escoffier, de ce cuisinier français révolutionnaire? Est-ce que c'est un duo qui a fonctionné comme ça au fil du temps?
Alors, ils se sont rencontrés plutôt quand ils avaient 30-40 ans, donc c'est plus tard dans sa carrière, quand il sera plutôt sur la Côte d'Azur. Mais à partir du moment où ils se rencontrent, ils ne se lâchent plus. Partout où Ritz ouvre de nouveaux hôtels, il veut absolument que Escoffier soit en tandem avec lui, parce que pour lui, vraiment, l'hôtellerie, c'est un tout, c'est hôtellerie-restauration. Et pour qu'il y ait un bon hôtel, il faut qu'il y ait un bon restaurant et un beau chef.
César Ritz commence à se faire un nom dans l'hôtellerie, mais où et comment va-t-il créer son premier rétablissement? L'histoire nous emmène sur la croisette dans un instant sur RTL. Mettez votre nouveau costume.
Allez, une belle cravate.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte l'histoire du Ritz dans la curiosité, ou plutôt de Monsieur César Ritz, l'hôtelier génial de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On le découvre grâce à Pauline Gaillat-Laburde qui publie Ritzy chez Albin Michel. Ritzy, c'est son surnom?
Alors non, en fait, c'est passé à la postérité Ritzy à partir de Ritz. Et en anglais, ça veut dire trendy, classe au sens français du terme.
Ah, c'est devenu un mot anglais, Ritzy.
C'est devenu un mot commun.
D'accord, c'est synonyme de quoi? De luxe?
De luxe, oui, de classe, de chic.
C'est pas passé dans notre langage français,
en tout cas. Non, c'est drôle, ça. On ne dit pas « qu'est-ce que t'es Ritz ce soir » pour dire « qu'est-ce que t'es bien habillé » ou « qu'est-ce que t'es chic ». Mais c'est drôle. Donc, son nom est devenu synonyme de luxe, mais cet empire hôtelier, César Ritz, il n'aurait pas pu le construire sans une femme, sa femme, qui est Marie-Louise Beck.
C'est ça. En fait, il l'a rencontrée quand elle était assez jeune. Elle avait une dizaine d'années. Elle venait du milieu de l'hôtellerie. Ses parents étaient hôteliers, d'abord en Alsace et puis après sur la Côte d'Azur. Et il l'a épousée sans doute par amour, mais aussi parce qu'elle apportait dans la corbeille tous ses parents de l'hôtellerie. Et elle a été après chargée dans ses hôtels. Vraiment, lui, il se chargeait de tout ce qui était clientèle, mais elle se chargeait de la décoration et de la bonne marche aussi du staff derrière.
Ils ont toujours travaillé ensemble, en fait.
Oui, c'était vraiment... On a parlé tout à l'heure du duo avec Escoffier, mais il y avait aussi ce duo-là avec sa femme qui n'est pas du tout développé dans le roman, parce que moi, je voulais un personnage central. Mais ça a été vraiment aussi un partenariat toute leur vie.
En tout cas, c'est un homme, César Ritz, qui sait bien s'entourer. Quand a-t-il acheté son tout premier hôtel? C'était où?
Alors, c'était l'hôtel de Provence à Cannes. Et il a acheté en même temps le restaurant de la conversation à Baden-Baden.
Il a un projet, idée.
Ouais. Et il mène les deux de front, parce que c'est pas tout près, Cannes et Baden-Baden.
C'est un homme qui a pas mal voyagé. Il était toujours sur les rails, en l'occurrence, à l'époque. Toujours entre deux trains. Et il gérait beaucoup d'hôtels en même temps. Donc, c'est vrai que c'était un grand voyageur. Mais je pense que de nature, c'était un peu un excité. Qui s'arrêtait jamais, il dormait 2-3 heures par nuit, donc il avait le temps de faire tout ça.
Et son ambition à Cannes, par exemple, qu'est-ce qu'il voulait faire, César Ritz, de son hôtel de Provence?
Ben, je pense que
quel genre de lieu?
un lieu très à la mode. Ça, ouais. Toujours, ça sera, surtout dans tous les hôtels qu'il va ouvrir. Pas mal de bling-bling, de grands événements, l'aristocratie, la haute bourgeoisie, etc.
Ça va rapidement marcher, cet hôtel de Provence ? Il va attirer rapidement une très belle clientèle ?
Oui, parce qu'encore une fois, il a ce réseau incroyable. Il connaît toutes les têtes couronnées d'Europe. Donc, il suffit un peu d'un claquement de doigts. On ne descend même plus à l'hôtel de Provence, on descend chez Ritz. Donc avant même qu'il y ait son nom sur la façade, on va chez Ritz.
C'est déjà devenu une marque d'une certaine façon.
Vous nous avez dit que c'est un grand maniaque en termes d'hygiène et d'éclairage. Il va, César Ritz, s'appliquer ses idées à Rome dans les années 1890. Comment ?
Bah, en termes d'électricité, en fait, ouais. C'est vraiment le père de l'électricité en hôtellerie. Donc, c'est lui qui fait le premier dans tous ses hôtels à installer l'électricité dans toutes les chambres. C'est aussi le père de ce qu'on appelle l'éclairage en direct, c'est-à-dire qu'il fait, comme il est très maniaque, il fait cacher les ampoules dans les corniches des plafonds pour pas qu'on les voit. Et puis, il s'applique vraiment à choisir toutes les teintes des abat-jours pour que ça flatte le teint des dames, parce qu'il a toujours cette culture de la perfection et de plaire aux clients.
Ça, c'est pour la lumière et pour l'hygiène. Alors, il a l'idée de mettre une salle de bain par chambre ?
Une salle de bain par chambre, l'eau chaude aussi, ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas
Quelle
à l'époque.
Révolution !
Quelle révolution, oui.
On est au tournant du siècle, juste avant 1900. Il commence à quoi ? Posséder plusieurs hôtels ? C'est presque un mania de l'hôtellerie, César Ritz ?
Oui, alors en fait, à cette époque-là, il y a la Ritz Syndicate, auquel il appartient, et qui est chargée d'ouvrir des hôtels un peu partout dans le monde, pas forcément sous la marque Ritz, mais donc il est partie prenante dans beaucoup d'hôtels. Il y a le Savoy à l'époque, puis le Ritz quand il l'ouvre en 98. Et puis, il y a le Frankfurter Hof, il y a le Grand Hôtel des Thermes en Italie, il y a le Claridge à Londres. Donc, il a des parts dans pas mal d'hôtels.
Voilà, et le Ritz, premier hôtel qui porte son nom, c'est 1898.
Tout à fait, quand il ouvre le Ritz, c'est vraiment le sommet de sa carrière parce qu'il a rêvé toute sa vie jusque-là de mettre Ritz sur une façade et pour la première fois, c'est le cas.
Qui est présent pour cette inauguration ?
Il y a toute la bonne société française, il y a Proust qui est là,
ouais.
Il y a... L'Aga Khan qui est là, il y a le Grand-Duc de Russie, il y a les Rothschild.
L'Aga Khan qui est un immense milliardaire, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, ouais. Voilà, donc toute la haute est là en fait.
Le prince de Galles ou pas ?
Le prince de Galles n'est pas là pour l'inauguration, mais ça sera un client régulier après.
Ouais. Le bâtiment lui-même a une histoire. Qui vivait au Ritz avant que César Ritz le rachète ? C'était une famille princière, c'est ça ? C'est déjà
oui,
un beau bâtiment.
Oui, c'est un hôtel particulier, ouais. Qu'il a restauré pour le transformer en hôtel. Il y avait déjà pas mal d'hôtels en fait sur la place Vendôme et il s'est dit qu'un petit peu plus de ça serait pas mal.
Hemingway et le Ritz, c'est une histoire d'amour aussi, on peut dire ça ?
Oui, complètement. En fait, Ritz avait vraiment ses quartiers Hemingway avait plutôt ses quartiers, oui. Au Ritz. Et il y était tout le temps fourré. Et il y a cette histoire, effectivement, qu'il aurait libéré le bar du Ritz pendant la guerre. C'était occupé, en fait, par les nazis à partir de 1940. Il y avait Goebbels, Göring, etc., qui étaient au Ritz. Mm-hmm. Et Hemingway, en fait, a été voir le général Leclerc pour lui demander des troupes pour aller libérer le bar du Ritz. Parce que, bien sûr, Leclerc...
Libérer les cocktails !
C'est ça, exactement. Leclerc, bien sûr, a refusé. Mais il a quand même marché sur Paris et été libéré le Ritz entre guillemets en 44. Et quand il est arrivé, les Allemands n'étaient plus du tout là. Mm-hmm. Du coup, pour se consoler, il a été boire 51 Martini Dry au bar du Ritz et il a laissé la note.
Merci beaucoup.
C'est la fin de votre émission. Avant de se quitter, on va vous poser une question qui vous permettra de gagner un joli cadeau. Et ce week-end, en partenariat avec le Palais de la Découverte de Paris qui fête ses 80 ans, on vous offre 4 entrées pour visiter le Palais de la Découverte, ses expos temporaires et une séance au Planétarium.
Alors, voici la question. J'espère que vous avez de quoi noter, Monsieur Jean-Pierre Foucault. C'est mon dernier mot. La question, c'est en 1869, que fabriquait-on avec le celluloïde, le tout premier plastique jamais inventé ?
Vous savez que vous avez utilisé plusieurs mots, mais enfin bon, ça vous regarde, Thomas. La réponse vous échappe. Allez, je vous donne un indice. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission du 13 avril dernier consacré à l'histoire des plastiques.
Et vous nous envoyez la réponse à lacuriosité@rtl.fr. Le gagnant sera tiré au sort et il aura la chance donc d'aller visiter ce lieu formidable qu'est le Palais de la Découverte.
Bonne chance, on se retrouve demain à 14h dans un instant, place au grand studio d'Éric Jean-Jean qui reçoit Da Silva et Texas. You know we gotta work. Ah, c'est bon, Texas. Allez, bon après-midi et à demain.